Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, après ces consultations, c'est vous qu'il vient chouchouter et éclairer de ses lumières. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous aimez quand je vous lance comme ça,
les lumières,
Jimmy, ça vous va très bien, c'est le sunlight. Allez, c'est parti. Au menu du jour, dans notre grand dossier, nous allons parler aujourd'hui de l'acné. Un problème de peau qui touche quasi 80% des adolescents, mais pas seulement, de nombreux adultes, surtout des femmes. Encore une fois, c'est pas juste, sont concernés par les boutons, les points noirs, les rougeurs. D'ailleurs, savez-vous précisément ce qu'est l'acné ? Car elle peut prendre plusieurs formes et toucher plusieurs parties du corps, pas que le visage. Pour en parler dans le détail, notre invitée cet après-midi, ce sera le professeur Marie Bello-Barry. Elle est chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-André de Bordeaux et elle est également présidente de la Société française de dermatologie. Ensuite, c'est vendredi et le vendredi, vous le savez, dans son rendez-vous, place à la beauté avec la chronique de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va s'adresser à vous, messieurs, à vous, Jimmy, vous allez bien écouter, puisqu'il va vous expliquer comment bien prendre soin de votre barbe. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de jouissance et de position sexuelle.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Chloé.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'entends de plus en plus parler d'aliments fermentés et de lactofermentation, donc notamment comme la choucroute par exemple. Je voulais savoir exactement comment ça agissait. Est-ce que effectivement c'est bien comment ça fonctionne en fait. Je vous remercie, bonne journée.
Alors bien que Jimmy raffole de la choucroute, pour vous répondre avec précision Chloé, on a transmis votre question à un spécialiste de ce qui se passe dans nos intestins justement, c'est le professeur Gabriel Perlmutter, il est chef du service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine Blecler de Clamart, on l'écoute.
Dans ce mode de conservation par la fermentation lactique, on fait croître des bactéries qui vont avoir un effet bénéfique sur notre santé. Comme les cornichons, comme certaines carottes, vous voyez, comme par exemple la choucroute, comme la soupe miso qui provient de la fermentation du soja, eh bien, on va avoir dedans des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé. Ces bactéries-là vont stimuler notre immunité, peuvent nous protéger des maladies cardiovasculaires, peuvent nous protéger du cancer. Et donc, ce n'est pas évidemment juste une fois, j'ai bonne conscience et je mange mes produits de fermentation lactique, mes produits lactofermentés, mais s'il y a une alimentation régulière avec ce type de produit, eh bien, ça a un effet bénéfique sur notre santé. Alors, il faut bien faire attention parce que si d'un seul coup, vous n'avez pas l'habitude et vous commencez à manger une citerne de choucroute, vous aurez juste très mal au ventre et vous n'aurez pas les effets bénéfiques.
Et des gaz, n'est-ce pas, Jimmy, quand on mange trop de choucroute. Hein, bon, bref, c'était...
Vous n'arrêtez pas, Mélanie, arrêtez de manger la choucroute. C'était une catastrophe pour mes oreilles et mon nez.
Mais très bon pour mon microbiote. Alors, c'était le professeur Perlmutter au micro de Benjamin Lévesque, le professeur Perlmutter, qui est aussi l'auteur d'un livre passionnant. Son titre, c'est « Et si la solution venait de nos bactéries ?» publié chez Flammarion. Allez, passons à la deuxième question. Cette fois, c'est Emma qui nous l'a posée. Une question coronavirus, on en reçoit pas mal en ce moment et c'est bien normal. On l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai mon pharmacien qui propose un test comptoir pour une dizaine d'euros. Mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de faire ce test si on n'a pas encore été malade ? Merci.
Alors Jimmy, en fait, en pharmacie, désormais, il y a deux types de tests dits Covid qui sont disponibles. Là, je pense qu'elle parle du test rapide sérologique, on va voir. Mais il y a aussi depuis quelques jours les tests antigéniques. Alors, prenons d'abord ces fameux tests rapides sérologiques. Ça sert à quoi, rappelez-nous ?
Alors, ces tests sérologiques vous permettent de savoir si vous avez été mis en contact avec le virus et si jamais vous avez développé une immunité. Donc, si vous n'avez pas été malade, je vous déconseille de faire ces tests à l'aveugle. En ce moment, l'urgence, c'est de savoir si vous êtes porteur du virus et donc si vous êtes contagieux.
Est-ce qu'ils sont fiables, ces tests sérologiques rapides ?
Ils ont été validés par la Haute Autorité de Santé. Néanmoins, un test n'est jamais parfait. Donc, il y a un risque que parfois le test soit négatif alors que vous avez des anticorps ou au contraire qu'il soit positif et ça plus embêtant, vous faisant croire que vous êtes protégé alors que non. Ceux en laboratoire par la prise de sang sont un peu plus performants.
Très bien. Alors, on va passer quand même à ceux aux autres, hein, les tests antigéniques qui sont depuis quelques jours disponibles en pharmacie. Ceux-là, ils servent à quoi concrètement ?
Alors, le test antigénique vous permet de savoir si jamais vous êtes porteur du virus et si donc vous pouvez le transmettre. C'est un peu comme la PCR quand vous allez au laboratoire, on fait le prélèvement dans le nez et on cherche à trouver un peu de matériel génétique, ce qu'on appelle l'ARN. C'est un peu le moteur du virus. Lorsque vous allez en pharmacie, on fait exactement le même test.
Dans le nez aussi, c'est, dans le c'est nez, pareil. Hein, c'est
et pas... on cherche à développer, à détecter des antigènes, c'est-à-dire au niveau de l'enveloppe du virus, une protéine qu'on va détecter avec un petit réactif. Et vous avez le résultat sous 15 minutes. Donc, vous ne faites pas la queue. Dans les labos, vous allez chez le pharmacien, certains médecins traitants le font, et même chez les infirmières. Donc, c'est une arme supplémentaire pour diagnostiquer, détecter, du coup, isoler et peut-être tracer.
Mais est-ce que ces tests-là, donc, qui sont aussi rapides, on a le résultat en combien de temps pour les antigéniques ? 15 minutes.
15 minutes.
C'est aussi fiable, là aussi, que le test dans le nez
aussi,
en labo.
Ouais. Un petit peu moins fiable, mais ils ont au moins une sensibilité de 80%. C'est-à-dire quoi ? C'est que si vous êtes porteur du virus, vous avez 8 chances sur 10 qu'on trouve un test
s'il
positif,
y a, ouais.
s'il y en a, mais ça veut dire qu'il y a quand même 2 fois sur 10 où ça ne marche pas.
D'accord.
Mais plus on répète ces tests, plus on rétrécit les trous dans la raquette, donc c'est une nouvelle arme dont on doit tous se servir. Donc faites-vous tester, allez voir le médecin traitant.
Ça coûte combien,
l'infirmière, c'est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, on ne paye rien. Carte vitale, le pharmacien paye directement, résultat en 15 minutes, pas valable pour les cas contacts. D'accord. Et
les personnes pour les gens plutôt symptomatiques.
Symptomatiques,
hein, ouais.
Dans les 4 jours. Et attention, si vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez aussi y aller, mais il ne faut pas être cas contact.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Emma, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Vous êtes en ligne avec nous, professeur Marie Bello-Barry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-André de Bordeaux et également la présidente de la Société française de dermatologie. Alors avec vous, cet après-midi, on va s'intéresser à l'acné. D'abord, c'est quoi l'acné ? Est-ce qu'on peut donner une définition ? Est-ce que c'est une maladie au sens propre ?
Je pense quand même qu'on peut dire que c'est une maladie. C'est une maladie qui est une maladie inflammatoire qui va toucher les follicules pilosébacés et qui est favorisée par la séborrhée, c'est-à-dire l'hyperproduction de sébum par les glandes sébacées avec ce qu'on appelle une rétention sébacée. Donc ce sébum va rester finalement enfermé au sein des glandes sébacées.
Le sébum,
former...
c'est quoi, juste si vous pouvez nous
le
préciser.
Le sébum, c'est ce film, vous savez, un peu lipidique, un peu gras que l'on a au niveau de la peau. Et donc quand on a la peau grasse, eh bien on a trop de sébum sur la peau. Et donc dans l'acné, on a à la fois cette production de sébum qui se manifeste souvent par la peau qui est grasse, mais également ce sébum va rester enfermé dans la glande sébacée qui se bouche enfin en quelque sorte, et ce qui forme ce qu'on voit, les petits kystes et les comédons, les points noirs qui sont un des premiers stades de l'acné. Et puis il va se combiner une inflammation au niveau de la peau, au niveau de ses glandes, avec là cette fois-ci ça va donner les points rouges, les boutons rouges, les boutons blancs, ce qu'on appelle les papules et les pustules.
D'accord.
Et professeur, quand on parle d'acné, on pense souvent à tort à simplement l'ado boutonneux, mais c'est une maladie qui peut toucher tout le monde finalement ?
C'est vrai que c'est surtout une maladie que l'on va observer chez l'adolescent. Et c'est 70% des adolescents ont de l'acné dans des stades plus ou moins importants. Mais effectivement, vous avez raison, on voit aussi de l'acné chez l'adulte et en particulier chez la femme au-delà de 25, 30, voire 40 ans.
Pourquoi vous me regardez comme ça, Jimmy ? Bah,
parce que vous êtes dans cette tranche d'âge. Vous n'avez pas de bouton, mais vous faites partie de cette tranche d'âge.
Avant 20 ans, j'ai pas de problème.
professeur, tout le monde n'est pas touché,
bien sûr. En règle générale, ça passe en combien de temps ? Alors, je parle des ados, par exemple, parce qu'on est d'accord, tous les 70% d'ados dont vous avez parlé ne restent pas boutonneux et acnéiques toute leur vie. Vers quel âge ça part ? C'est quelque chose qui peut se résorber tout seul, en fait, quand même, aussi.
Alors, tout seul, oui, pour des acnés minimes, voilà. Éventuellement, avec des soins d'accompagnement. Mais il ne faut pas non plus se dire, ça va passer tout seul, ne
justement.
T'inquiète pas, lorsqu'on a une acné quand même avec des lésions importantes, parce que là, l'adolescent, il va en souffrir véritablement.
On va parler
donc,
de la prise en charge après, mais justement, il y a plusieurs formes d'acné, c'est important de le préciser.
C'était pour vous dire qu'il ne faut quand même pas se dire, ça va passer tout seul. Donc, l'adolescent, c'est long, l'adolescence. Donc l'adolescence, ça peut commencer vers...
Jimmy n'a pas terminé encore, hein, c'est bien le problème.
Vers 13 ans, et puis après, jusqu'à 20, 25 ans, on peut encore avoir de l'acné qui persiste. Donc c'est vrai que, en tout cas, entre 15 et 20 ans, c'est vrai que là, c'est la phase, disons, la plus importante.
Et vous l'avez dit, professeur, l'acné, c'est plusieurs formes différentes. On peut simplement avoir quelques boutons, mais les points noirs, ça compte aussi comme de l'acné. Est-ce que les rougeurs aussi peuvent en faire partie ?
Alors les points noirs, oui absolument, donc c'est la fameuse rétention au niveau des glandes sébacées dont je parlais au début, hein. Donc c'est ces points noirs, en fait c'est l'orifice de la glande qui fait cet aspect-là, donc les points noirs, les petits kystes, alors les rougeurs, je dirais pas les rougeurs diffuses, mais par contre des boutons rouges, donc ces petites papules qui sont ces glandes inflammatoires.
Et donc ça va de trois petits boutons, ça c'est déjà un petit peu d'acné, quelques petits boutons blancs ou quelques points noirs, à des choses où c'est tout le visage quasiment.
Absolument. Ouais. Donc en fait, le médecin qui doit évaluer une acné, eh bien, va évaluer à la fois le type de lésion, donc est-ce que c'est plutôt des points noirs, est-ce que c'est plutôt des boutons rouges, et puis l'importance des lésions, leur taille, et est-ce que c'est juste sur le front, juste sur le nez, comme vous disiez, ou bien au contraire sur le visage. Et puis il n'y a pas que le visage, il y a aussi le décolleté et puis le dos.
Et vous l'avez dit, professeur, donc c'est des adolescents qui souffrent plus d'acné, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est les ados? Pourquoi est-ce que c'est pas le petit enfant ou l'âge d'un adulte, de l'âge de Mélanie par exemple?
Eh bien, il y a ce que l'acné est sous dépendance hormonale avec la dithrotestostérone, et donc c'est au moment de l'adolescence où il y a tous ces processus hormonaux qui vont se mettre en place, et c'est pour ça que l'on observe cela à l'adolescence.
Il peut y
avoir des acnés exceptionnels chez l'enfant, mais c'est vraiment D'ailleurs, ça commence, les premiers signes de la puberté, c'est l'hyperséborrhée, c'est cette peau qui devient grasse, parfois très tôt d'ailleurs.
Quelles sont les causes en dehors des causes hormonales dont vous venez de parler? Est-ce qu'il y a aussi un facteur peut-être génétique? Je ne sais pas si moi j'ai eu de l'acné quand j'étais enfant, ce qui n'était pas du tout le cas, enfin jeune, adolescente. Est-ce que ça veut dire que mes enfants en auront forcément?
Alors, je pense qu'il faut modérer le terme de forcément, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des facteurs génétiques et dans des familles, surtout pour les acnés sévères finalement, on peut retrouver dans une même famille des acnés particulièrement sévères.
Et du coup, est-ce que dans notre environnement, par exemple, je ne sais pas, la pollution, ça pourrait aggraver ou entraîner plutôt de l'acné ?
C'est pas véritablement quelque chose qui est prouvé, disons.
Et même chose pour d'autres toxiques, si on pense par exemple au tabac, est-ce que c'est le... Non, on est dans la même ambiance.
Ça peut donner des boutons, fumer ou pas?
Le tabac, oui, ça incontestablement, à la fois par, et surtout finalement par une activation de l'inflammation, mais aussi éventuellement sur l'aggravation de la rétention et de la séborrhée. Donc le tabac, oui,
un ado qui arrête de fumer, il aura moins de boutons, ça c'est
alors,
possible,
oui. On va pas lui promettre que son acné va disparaître s'il arrête de fumer, mais bon, on va lui conseiller d'arrêter de fumer pour des tas de raisons, mais sans doute que le fait de fumer aggrave, et ça fera partie des conseils qu'on va lui donner, effectivement, d'arrêter sa consommation.
Une bonne raison de les pousser à arrêter
absolument.
Ou à ne jamais commencer.
Oui, tout à fait.
Vous disiez, je crois, en préparant cette émission, vous me disiez qu'il y en avait de plus en plus d'acné, notamment chez les adultes. Comment on explique ça?
Alors c'est vrai qu'on voit davantage de peut-être y fait-on plus attention aussi, hein, on voit davantage de femmes adultes qui continuent à avoir cette acné tardive. Donc il y a sans doute des facteurs hormonaux, donc soit exogènes, soit endogènes, qui favorisent ça.
Exogènes, endogènes, si vous pouvez expliquer à nos auditeurs.
Exogènes, donc par prise extérieure de hormonaux, finalement, ou bien de production interne anormale hormonale.
Professeur Bello-Barry, on va faire une courte pause, on vous reste avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Alors notre invité qui nous accompagne aujourd'hui pour ce dossier du jour consacré à l'acné, c'est vous, professeur Marie Bello-Barry. Vous êtes chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-André de Bordeaux et également la présidente de la Société française de dermatologie. Alors professeur Bello-Barry, on va passer au traitement actuel de l'acné. D'abord, à partir de quand il faut consulter, par exemple donc chez les ados dont on a beaucoup parler jusque-là. Au départ, ça commence pas, j'imagine, par une invasion de tout le visage de boutons. Ça doit bien commencer par 2-3 boutons qui arrivent. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous directement chez le dermato dès les premiers bourgeons, on va dire ?
Alors, peut-être pas chez le dermatologue, mais le médecin traitant, le médecin de famille ou le pédiatre chez des grands-enfants, jeunes adolescents, pourra tout à fait gérer, je pense, une acné débutante. Alors, ça peut être juste avec des petits conseils ou avec les premiers traitements locaux. Donc, c'est vrai, s'il n'y a que quelques petites lésions, ce qu'on appelle les acnés légères, ça peut tout à fait être traité. Après, lorsque l'acné résiste, lorsqu'elle est plus importante, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un avis dermatologique.
Ouais. Et justement, dans ces cas-là, peut-être qu'il ne faut pas trop attendre, parce qu'on parle de maladies avec des conséquences physiques, mais d'un point de vue psychologique, le retentissement peut être important, à la fois chez les adolescents, mais aussi chez certains adultes.
Absolument, vous avez raison. C'est vrai que c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas se dire ça va passer. Un adolescent, c'est déjà une période difficile de la vie, où on a toute la construction de son corps qui se modifie, etc. Donc se retrouver avec de l'acné, c'est une difficulté supplémentaire. Et c'est vrai que lorsqu'on compare des adolescents qui ont de l'acné et des adolescents qui n'ont pas d'acné, on voit qu'il y a une souffrance psychologique très importante de l'acné.
Et ne pas traiter suffisamment précocement, c'est aussi s'exposer peut-être, une fois que l'acné sera peut-être terminée, à de grosses cicatrices. Donc ça vaut le coup aussi pour l'après ?
Alors absolument, là aussi, alors c'est pas toutes les acnés heureusement qui laissent des cicatrices, mais il y a certaines acnés très inflammatoires où les lésions deviennent profondes dans la peau et qui laissent des cicatrices. Donc là, il faut agir et agir vite et efficacement.
Alors on va parler avec vous un petit peu de la prise en charge et des traitements. Et donc au début, lorsque la maladie n'est pas sévère, on peut commencer par des traitements locaux, c'est-à-dire qu'on met des crèmes, c'est ça ?
On met des crèmes et puis il y a tout ce qui est un petit peu autour, c'est-à-dire savoir aussi utiliser des crèmes hydratantes, savoir ne pas décaper sa peau. Parce
ça
que
veut
si
dire
on
quoi,
décape
savoir
sa...
utiliser une crème hydratante quoi, parce que moi, alors, j'ai l'impression que j'en mets sur mes doigts, j'en mets sur mon visage et voilà.
Utiliser, ça veut dire savoir qu'il faut utiliser une crème hydratante, je me réexprime. C'est-à-dire pas se dire, j'ai la peau grasse, j'ai pas besoin de crème hydratante. Ça, c'est faux. Il faut mettre une crème hydratante le matin, savoir ne pas se décaper la peau, c'est-à-dire parfois les adolescents se disent, oh là là, j'ai la peau grasse,
je vais frotter,
j'ai des
boutons,
je vais frotter, etc. Donc ça, non, surtout pas. Donc plutôt vraiment des choses le moins agressives possible, bien hydrater sa peau. Et effectivement, les traitements plutôt à mettre le soir, moi je conseille plutôt de le faire le soir. Et donc on va adapter ces crèmes au type d'acné. Il y a des crèmes qui vont agir plutôt sur l'acné plutôt qu'on appelle rétentionnel, c'est-à-dire la rétention, ce qu'on disait tout à l'heure, les points noirs, les petits kystes, et puis l'acné plutôt inflammatoire, les papules, les pustules, donc points blancs ou points boutons rouges.
D'accord. Et ces crèmes, donc on les met le soir, vous avez dit plutôt, parce qu'elles sont peut-être un peu agressives, et c'est tous les jours pendant combien de temps ?
Alors, c'est pas forcément tous les jours. Là aussi, c'est un peu l'expérience du médecin qui doit être bien attentif à ça, parce que parfois il y a certaines peaux d'adolescents qui vont pas supporter une crème tous les jours, parce que c'est parfois un peu agressif. Donc parfois, certains ça va être tous les deux jours, d'autres ça va être bien supporté tous les jours. Donc c'est vrai qu'on essaie de trouver le bon rythme plutôt le soir, et puis la durée. Donc en général, on essaie de le faire jusqu'à ce que ça s'améliore. Donc ça peut être par exemple, 2 mois de traitement fait très régulièrement. Et puis après, c'est vrai qu'on essaie de mettre en place un traitement d'entretien. Souvent, il faut continuer à mettre de manière plus espacée la crème. Et ça, c'est important à expliquer à l'adolescent. Vous disiez tout à l'heure, comme question, finalement, jusqu'à quand ça va durer ? Voilà, ça va durer longtemps. Donc, il faut pouvoir accompagner. C'est pas on met un mois la crème et c'est fini. C'est ça, s'il faut le faire comprendre d'emblée.
Vous comprenez maintenant, Jimmy, pourquoi ça n'a pas marché ?
Eh oui, je n'aurais pas dû m'arrêter en si bon chemin. Professeur, est-ce que ces traitements coûtent cher ? Est-ce que c'est pris en charge par l'assurance maladie ?
Alors, la plupart de ces traitements sont pris en charge par l'assurance maladie avec un remboursement à 30%. Certaines combinaisons, par contre, ne sont pas remboursées.
Ah oui, donc c'est un budget quand même ou pas ?
Voilà, donc c'est un budget, il faut faire attention. Alors, quand les crèmes qui sont remboursées, elles sont de l'ordre de 3 à 5 euros par tube. Donc ça va, ils sont remboursés à 30%. En revanche, il faut quand même que, là aussi, le médecin prescripteur soit attentif, parce que certaines combinaisons ne sont pas remboursées. Et quand on dit pas remboursées, c'est des prix libres. Et donc là, ça peut être
grimper
plus important. Et de manière manière très très variable.
Et ces traitements, donc, vous disiez c'est toute l'adolescence, mais est-ce que du coup c'est les mêmes qu'on utilise par exemple pour une femme d'âge plus mûr qui aurait des boutons?
Comme oui, le vôtre,
il me fait un geste évidemment.
Non mais il n'y a pas de honte.
Au niveau du menton, parce que c'est surtout là, vous dites, chez les femmes dans l'acné plus tardive. Hein.
Les femmes plus tardives, oui, ouais. C'est vrai que c'est souvent c'est une acné du menton, assez rythmée par les règles, etc. Donc oui, on va adapter sur le même principe hein, de ces traitements locaux, en sachant qu'à l'âge adulte, ben, souvent c'est un peu compliqué à faire supporter, à admettre de continuer à se mettre de la crème traitante pour son acné à 40 ans.
Mélanie me montrait son joli menton jusque-là entre-temps. Je pense qu'elle a besoin d'une consultation. Mais est-ce que les hommes sont épargnés? Parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais je suppose que les hommes aussi, malgré tout,
ah oui,
peuvent
souffrir. Vous avez le masque, ça vous aide
ça
un peu.
Ça cache la misère,
mais...
oui. Ouais,
non, les hommes ne sont pas totalement épargnés. Ah, hein. Il peut y avoir aussi des acnés plus tardives. C'est peut-être un peu moins classique.
C'est quoi? Parfois, c'est chez des gros
parfois chez des gros fumeurs, on peut voir aussi des acnés plus tardifs.
Encore une bonne raison d'arrêter de fumer.
Oui,
et donc, de toute façon, qu'on soit homme ou femme, il ne faut pas hésiter à consulter, hein, c'est pareil. Hein.
Oui.
Docteur Bellobari, professeur Bellobari, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Marie Bellobari. Vous êtes chef du service de dermatologie de l'hôpital Saint-André de Bordeaux et également la présidente de la Société française de dermatologie. Alors cet après-midi avec vous, on l'a compris, on détaille les solutions pour les patients qui souffrent d'acné, quel que soit leur âge. On a vu qu'il y avait dans un premier temps donc les traitements qu'on dit locaux, c'est-à-dire les crèmes qu'on peut appliquer sur la peau, plutôt le soir, vous l'avez bien précisé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le traitement systémique, c'est-à-dire des comprimés. Là, je crois que ça commence par des antibiotiques. Ça veut dire que l'acné, c'est une maladie infectieuse ?
Ah ben voilà, ça il faut expliquer aussi aux patients que ce n'est pas une maladie infectieuse. Donc ce n'est pas n'importe quels antibiotiques que l'on va donner pour l'acné. L'acné c'est une maladie inflammatoire et donc on va utiliser des antibiotiques particuliers qu'on appelle des cyclines qui ont une action anti-inflammatoire sur la peau. Et c'est comme ça que cela va marcher sur l'acné. Donc c'est vrai que lorsque les crèmes ne suffisent pas ou que l'acné est plus importante lorsqu'on voit l'adolescent pour la première fois, eh bien on va proposer un traitement par cycline. Donc ce sont des comprimés, comme vous l'avez dit, des comprimés que l'on prend tous les jours et c'est une durée qui est de l'ordre de 3 mois. On ne fait pas de traitement plus prolongé, mais pas de traitement non plus, il ne faut pas qu'il soit trop court pour être suffisamment efficace. Donc ça c'est un très bon traitement pour les acnés inflammatoires, hein, c'est vraiment le traitement systémique de référence.
Et donc vous l'avez dit, un traitement assez long, 3 mois, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets secondaires? Les patients, lorsqu'on leur dit ça, ils vont se dire, mais attendez, quand je prends une semaine d'antibiotiques pour une angine, j'ai mal au ventre, de la diarrhée, est-ce qu'on peut les rassurer à ce niveau-là?
Alors, on peut quand même les rassurer parce que ce ne sont pas justement les mêmes antibiotiques que ceux qu'ils ont pris pour leur angine. Là, on va utiliser ces fameuses cyclines à des doses faibles, qui sont des doses où il y a une action plus anti-inflammatoire.
D'accord.
Donc déjà on est à dose faible. Alors après il y a quand même des petites choses, il faut les prévenir. Premièrement, ils peuvent avoir parfois des petites sensations un peu d'être barbouillés. C'est pas vraiment des nausées, donc il faut qu'ils le prennent bien pendant un repas, pas à jeun. Il faut faire attention parce que ces antibiotiques peuvent parfois sensibiliser au soleil. Bon, ceci dit, comme on les prend à petite dose, en général ça pose pas trop de problèmes. Mais bon, bien sûr, peut-être pas s'exposer en plein soleil. Bon, mais ça, c'est un conseil de manière générale. Et puis aussi, bon, c'est peut-être moins le problème d'adolescents. Il ne faut pas prendre, bien sûr, ces traitements pendant une grossesse.
Oui, mais pour les femmes plus mûres, oui.
Voilà, pour les femmes plus mûres. Alors, c'est sûr que ça, il faut le savoir. Et puis aussi pour l'adolescent, parce qu'une adolescente peut quand même être enceinte. On en reparlera tout à l'heure. Mais bon, si jamais... Imaginons une grossesse survenait, bon, on arrête le cycline.
Ça devrait aller.
Voilà, ça va aller.
D'accord.
Parce pourquoi on prend pas le prendre, je vais quand même le dire, parce que si on prend des cyclines pendant une grossesse, eh bien, ça entraîne un jaunissement de la dentition du bébé. Et de la même manière, on ne donne pas de cycline à des tout jeunes adolescents ou enfants qui ont de l'acné pour cette même raison sur la dentition.
Surprenant donc jaunissement des dents. Alors si les cyclines, ces antibiotiques particuliers dont vous venez de parler ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est le fameux médicament alors qui n'existe plus sous ce nom-là, c'était le Roaccutane, l'isotrétinoïne, hein, c'est ça?
Absolument, absolument. Donc c'est un traitement qui est un traitement qui est remarquablement efficace pour des acnés très sévères, très inflammatoires. Et ces fameuses acnés qui risquent de laisser des cicatrices, ces fameuses acnés qui ont un retentissement majeur sur la qualité de vie et sur l'état psychologique de l'adolescent. Donc c'est l'isotrétinoïde, c'est un traitement qui est très efficace, mais dont la prescription est très encadrée.
Expliquez-nous.
Voilà, très encadrée. Donc même maintenant, c'est une prescription initiale par un dermatologue. Avec
Le généraliste ne peut pas le prescrire en première intention, hein, c'est
voilà.
ça ?
Pas, il ne faut pas le faire l'initiation, oui, faire la première prescription.
Mais le suivi.
Et, voilà. Et c'est un traitement qui impose un véritable contrat de soins avec le patient, même contrat qui est signé lorsqu'on est une fille, puisqu'il faut avoir une contraception absolument obligatoire sous ce traitement. Et alors là, ce n'est pas du tout comme les cyclines où je disais, bon, ben, on arrête, voilà, il n'y a pas de problème. Là, il faut vraiment qu'il y ait une contraception. C'est un médicament qu'on appelle tératogène, c'est-à-dire qui va donner des malformations au fœtus.
Mais on n'est pas sur les dents jaunes, là. On est sur des
voilà,
choses plus graves.
Hein, ouais. Voilà, donc ça, c'est plus grave. Donc, il faut une contraception un mois avant, pendant tout le traitement, un mois après, des tests de grossesse tous les mois. Et ça, vraiment, il faut être intransigeant sur ces règles de prescription pour éviter les grossesses qui, malheureusement, parfois continuent à survenir. La NSM a fait une récente alerte là-dessus, sous isotrétinoïne, parce que les adolescentes ne respectent pas cette contraception ou bien n'ont pas été suffisamment informées. Donc, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le problème incontournable de la contraception. Après, bon, ben voilà, il faut suivre cette règle et c'est gérable comme ça.
Et à côté de ça, il y a d'autres effets secondaires, notamment le fait qu'il y ait de la sécheresse cutanée. Comment est-ce qu'on fait pour la prendre en charge ?
Alors là, il faut savoir que c'est lié à l'effet même du médicament. Ce médicament, c'est un puissant sébostatique, entre guillemets, c'est-à-dire ça veut dire que ça va bloquer tout à fait cette production de ce film lipidique. Donc bah, c'est intéressant pour l'acné, mais à l'inverse, ça sèche. Ça sèche la peau, ça sèche les lèvres. Donc là, stop tous les traitements traitants pour locaux pour l'acné et en revanche crème hydratante, stick pour les lèvres et ça il faut l'anticiper, il faut pas attendre la deuxième consultation où on voit l'adolescent arriver tout sec.
Ados, en plus,
bah, bien sûr, il sera désespéré, ça n'ira pas. Donc il faut dès le départ bien lui prescrire la crème hydratante, les soins d'accompagnement, etc.
Et ça marche très bien par contre, hein, quand tout ça est bien suivi, c'est très efficace. Hein.
Remarquablement efficace. Alors je parle quand même d'un troisième point sous isotrétinoïne qui est important à souligner. Il a été décrit sous isotrétinoïne des troubles de l'humeur et des cas d'adolescents qui, alors qu'ils étaient traités par isotrétinoïne, ont fait des tentatives, voire même des suicides.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. En fait, lorsque on regarde à l'échelle de population d'adolescents qui sont traités par isotrétinoïne, on ne retrouve pas, par rapport à des patients non traités, de surrisque de suicide. Donc, il n'est pas prouvé de rôle direct. Et il y a sans doute beaucoup de facteurs qu'on appelle confusiogènes, des facteurs de confusion, puisqu'en fait, on est chez des adolescents qui sont avec des acnés extrêmement sévères, qui sont avec
qui sont déjà pas très bien, des fois psychologiquement.
Donc, voilà. Donc, en tout cas, l'important, c'est que le prescripteur soit sensible et accompagne très bien son patient, l'informe. À chaque visite, on parle de tout ça. Est-ce que le traitement est bien supporté, la sécheresse, etc. Tout ça, c'est très important.
Professeur, dernière toute petite question en cette période troubles de coronavirus. Ça, parfois, certains patients, certaines personnes se plaignent de boutons avec le masque. Est-ce que vous avez un ou deux conseils pratiques qu'on pourrait leur donner ?
Alors, c'est vrai que ça ne va pas déclencher de l'acné, mais ça peut éventuellement aggraver des acnés préexistantes. Donc, poursuivre leur traitement pour l'acné, bien hydrater sa peau, mais ça ne contre-indique pas le port du masque. Donc, c'est finalement continuer ce qu'on fait d'habitude. Et puis, bon, bien sûr, c'est sûr que lorsqu'on est tout seul, enlever son masque, bien sûr, mais sinon, surtout des conseils d'hydratation.
Ouais. Merci beaucoup, professeur Bello-Barry, d'avoir accepté de répondre à nos questions pour toutes ces précisions donc sur la prise en charge des patients qui souffrent d'acné. On a compris qu'il y avait de nombreuses solutions. Merci encore, professeur. Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence. Avec vous, Benjamin Lévesque, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour.
Nous sommes en novembre et novembre, c'est le Movember, le mois de sensibilisation à la santé des hommes. Et pour l'occasion, Benjamin, vous vouliez prendre soin de la beauté des hommes finalement avec quelques conseils sur la barbe.
Et oui, ce symbole de virilité qui nous protège du soleil l'été et du froid l'hiver, eh bien, a besoin d'être chouchouté. Et pour commencer, il faut bien la nettoyer. Et oui, notre barbe, je ne vous apprends
j'avais
rien.
J'avais même pas que ça se nettoyait une barbe.
En plein visage. Eh oui, ça se lave. Elle est en plein visage, donc elle accumule les poussières, la pollution ou encore les peaux mortes. Et pour cela, eh bien, il faut utiliser du gel nettoyant moussant qui est adapté au visage et surtout pas utiliser votre shampoing en vous disant, bon, après tout, c'est comme les cheveux, ce sont des poils, enfin, ce sont des cheveux, grave erreur, hein, vous risquez de décaper votre peau et donc de la déshydrater.
D'où cette barbe un peu sèche chez vous, Jimmy. Alors,
ça y est,
justement,
ça commence.
Benjamin, pas de shampoing, il a dit Jimmy. Alors, vous avez compris. Hein. Comment les hommes peuvent faire pour hydrater cette barbe? Comment ils peuvent faire, Jimmy? Parce que c'est une cata quand même.
Alors, comme pour les cheveux, le poil de la barbe a vraiment besoin d'être nourri et fortifié. Et pour l'hydrater, eh bien, il existe des huiles, des baumes ou encore des crèmes. Mais tout ne s'applique pas de la même manière, comme le dit l'expert beauté François Lally.
Si par exemple on applique une huile de ricin, l'huile de ricin, elle, va se rincer en fait, donc on va pouvoir l'appliquer en soin. Mais il y a aussi des huiles qui, elles, peuvent rester toute la journée, donc on va se l'appliquer plutôt le matin en hydratation. L'huile, c'est quelque chose qui va être un peu plus gras, un peu plus brillant. Le baume, lui, il va être un petit peu plus riche et hydratant. Et la crème, c'est dans une hydratation plutôt à base d'eau et qu'on va pouvoir venir mettre aussi tous les jours dans l'entretien de la barbe.
Et on n'oublie pas aussi de brosser la barbe. Hein. Le mieux, c'est de le faire plusieurs fois par jour.
Brosser, Jimmy,
pour
brosser.
Là, encore éliminer toutes les saletés.
Benjamin, j'ai constaté que vous avez pas mal de poils incarnés.
Jimmy, de la barbe,
qu'est-ce ça taille
que
entre vous pourriez
c'est
faire entre
non, mais c'est vrai que c'est un truc dont vous souffrez. Je crois que vous avez pris beaucoup de choses sur ce sujet pour éviter justement ces poils incarnés au niveau de la barbe.
Exactement. Alors, ça arrive le plus souvent chez les hommes avec des poils frisés. Comme vous, Jimmy, au niveau du cou principalement. C'est parce que le poil a du mal à sortir et ça s'infecte. Alors pour éviter ça, eh bien, certains spécialistes conseillent de faire des gommages, mais d'autres solutions existent, comme l'explique le docteur Laurence Netter, dermatologue à Paris.
Certains hommes sont améliorés par le rasage électrique et de temps en temps par la crème dépilatoire. En fait, en utilisant de la crème dépilatoire, parce que ça ramollit, si vous voulez, la kératine du poil et le poil qui sort est moins traumatisant pour la peau. Malgré tout, il existe un traitement qui est l'épilation laser. Alors, il ne faut pas faire des épilations pour enlever complètement la barbe, mais il faut faire quelques séances de façon à ce que le poil soit moins dru et moins traumatisant pour la peau. Donc j'ai au cabinet souvent des hommes qui viennent me voir pour 3-4 séances d'épilation, donc ça les améliore, ça ne dure pas des années, mais ça les améliore 2-3 ans, puis 2-3 ans plus tard, ils ont à nouveau une petite poussée de folliculite et on recommence une série de quelques épilations laser et ça les améliore grandement.
Alors Benjamin, mon coiffeur barbier est fermé. Est-ce que vous avez des conseils pour bien tailler sa barbe?
Alors, toujours commencer par bien la brosser, hein, pour discipliner les poils.
Je crois que brosser, c'est important. Hein. Il nous l'a dit plusieurs fois. Jimmy, il faut brosser. Hein.
Et ensuite, selon la longueur de votre barbe, eh bien, il y a quelques règles à respecter, comme nous l'explique l'expert beauté François Lally.
Pour la tonte, effectivement, on peut la tailler dans le sens du poil ou dans le sens inverse du poil. C'est surtout au niveau du rendu. Quand on va être dans le sens du poil, on va faire ça plutôt sur une barbe longue ou un poil qu'on veut garder assez long. La taille dans le sens inverse du poil, là, on va plus être sur les barbes très courtes, donc des 3 mm, 6 mm. Alors, pour le rasage à blanc, la mousse et l'eau vont venir assouplir un petit peu le poil, ce qui va permettre au rasage, au passage du rasoir, de passer plus facilement et de moins irriter la peau. Et effectivement, pour les personnes qui sont un peu plus sensibles et qui font plus des feux de barbe, on va éviter le rasage dans le sens inverse du poil.
Et alors, Jimmy, vous m'avez demandé tout à l'heure des conseils pour avoir une vraie barbe virile d'homme. Alors, je peux vous dire que la raser à blanc pour qu'elle pousse plus vite et plus robuste, eh bien, c'est une idée reçue. Vous pouvez la raser autant de fois que vous voulez, Jimmy. Ça ne changera rien. comme le confirment certains spécialistes. Et enfin, on voit aussi beaucoup d'hommes avec des sortes de trous dans la barbe, avec une barbe qui n'est pas uniforme sur tout le visage. Il y a une explication. On écoute la dermatologue Laurence Netter.
Des trous, comme vous dites, des zones où il n'y a pas de poils, ça peut être une pathologie qu'on appelle la pelade. On peut avoir une réaction immunologique comme si le corps rejetait les poils comme les cheveux et ça donne des petits confettis, la plupart du temps ronds, sans poils. Ça, c'est ce qu'on appelle une pelade. Mais il y a également des hommes qui ont ce que j'appelle un peu, de façon constitutionnelle, une barbe mitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, la densité du poil n'est pas identique partout.
La barbe mitée, j'adore.
Et dans ce cas, messieurs, vous allez pouvoir utiliser un crayon de maquillage pour camoufler les trous, mais il faut le faire tous les jours.
J'avais de la vie, franchement. Non.
Et d'autres solutions à long terme existent, comme la tricopigmentation, c'est du tatouage semi-permanent, ou encore des implants aussi peuvent se faire au niveau de la barbe.
Allez, du petit coup de crayon pour vous, Jimmy, pour les petits trous là, que je vois sous le masque là, qui dépassent. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque, pour tous ces conseils.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec un grand plaisir. Alors cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question de Fabrice. On l'écoute.
Bonjour Catherine, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Enfin, un petit souci en façon de parler. C'est que quand on fait l'amour avec ma copine, malheureusement, elle arrive qu'à jouir que dans une seule position, une seule et même position. Donc moi, ça me dérange un petit peu à force et je voulais savoir comment on pouvait innover, comment on pouvait faire pour remettre un petit peu de piment dans nos rapports. Voilà, merci à vous, bonne émission.
Ça vous fait rire, Jimmy? Enfin, pas rire, sourire, parce que c'est très intime, en fait, quand même. Mais c'est bien qu'on ait des questions comme ça. Il n'y a aucun sujet tabou.
Bah oui, non, mais tout le monde va avoir ce genre de problème. Elle arrive à jouer au moins dans une position. Je pense que c'est déjà ça, non? Enfin, non, moi, je le vois de ce côté-là. Non, mais c'est vrai, c'est bien.
Il voit le bon côté des choses.
Mais il a raison, parce que franchement, la question de savoir si une femme jouit dans une position, eh bien elle jouit dans cette position.
Au moins elle jouit.
Elle jouit, et c'est une assurance, donc c'est merveilleux. Après que lui en ait marre de cette position, on peut le comprendre. Ceci étant, faut-il absolument faire l'amour avec quelqu'un? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire...
avec elle.
Non, je veux dire, est-ce que faut-il faire l'amour avec quelqu'un qu'à la condition que toute position ou toute gestuelle que nous ayons amène à une jouissance automatique. Alors, ça va si on fait l'amour 3 minutes, mais si on fait l'amour une demi-heure, c'est infernal. On ne va pas jouir pendant une demi-heure. Donc, heureusement qu'on change de position, on recrée de l'excitation, on recrée de la frustration. Du coup, on recrée de l'excitation, on recrée du désir. Et puis, si on en vient pour clore sur la position qui l'a fait jouir, eh bien, très bien.
Tant mieux pour
elle. Et d'ailleurs,
elle.
Est-ce qu'elle veut jouir de toutes les positions? Il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même lecture d'abord de ses liberté, lecture des lieux ou des rythmes qui lui conviennent. Donc, si elle a trouvé son rythme, c'est peut-être un peu rébarbatif.
C'est fréquent chez les femmes
mécanique.
D'avoir qu'une seule position comme ça, enfin toujours un peu la même qui revient pour jouer.
Absolument, mais les hommes aussi, hein, je vous rassure.
Ouais, hein, c'est pas qu'un truc de femme. Ouais.
Oui, simplement les hommes, ils en font plein parce qu'ils sont à ce moment-là au spectacle de la jouissance de l'autre.
C'est ça.
Mais pourquoi une femme ne pourrait pas être au spectacle de la jouissance d'un homme en étant dans une position dans laquelle elle jouit moins? Mais où elle le voit jouir. Et jouir n'est pas que dans son temps d'éjaculation.
Est-ce que ce n'est pas lié à la pornographie qui fait croire que les femmes doivent jouer à chaque rapport, dans diverses positions, pour satisfaire aussi l'homme? Alors que dans la question, on a l'impression que c'est un truc presque égoïste. L'orgasme qu'elle a, c'est OK pour le couple, mais c'est pour la femme. Donc pourquoi cette obsession de vouloir faire jouir une femme à tout prix, dans plein de positions? Et comme vous le dites, un rapport sexuel peut être réussi sans orgasme.
Mais bien évidemment, sans orgasme, c'est la douceur que l'on s'accorde. On se fait du bien tantôt à l'un, tantôt à l'autre, tantôt simultanément. Et effectivement, la pornographie laisse à penser qu'une femme est une poupée gonflable qui, dans toutes les positions, regardez quand on appuie sur ce bouton, et regardez dans ce bouton, et puis sur ce bouton, et ce
donc
bouton là aussi.
Devrait s'en contenter, c'est tout? Et vous n'avez rien à lui conseiller?
Non, c'est pas se contenter de cette position. Il ne va pas faire l'amour que dans une position, surtout si pour lui, elle n'est pas jouissive. Mais de chercher absolument à changer les positions pour qu'elles jouissent avec une injonction de jouissance, c'est ça qui ne va pas. C'est bien sûr qu'il s'accorde le droit de faire l'amour dans d'autres positions, qu'il lui propose d'autres choses, parce qu'évidemment, il y a des femmes, par exemple, qui vont aimer très fortement la position où elles sont assises à califorchon sur leur partenaire, et ces positions peuvent être plutôt anxiogène pour certains hommes. Donc, évidemment que ça pose un problème quand il y a une position qui plaît à l'un et pas source de grands fantasmes pour l'autre. Mais il suffit de se dire, chacun à son tour, nous jouissons. Chacun à son tour, nous jouissons des fantasmes que génère la position.
Systématiquement, on dit qu'il faut en parler dans un couple. Mais là, Fabrice, il faut qu'il se taise. Il ne va pas dire à sa copine, écoute, tu ne jouis qu'en missionnaire, ça ne me satisfait pas, il faudrait faire autre chose. Ce serait maladroit d'aborder ce sujet, non?
Oui, surtout quand on fait l'amour. De toute façon, quand on fait l'amour, on ne parle pas de sexualité. Tiens, faisons ça et faisons ça. Enfin, on en parle.
Il y en a qui parlent beaucoup.
Ouais. Oui, mais on dit deux mots. On dit tu aimes ça ou je vais te faire ça. Mais c'est, j'allais dire, c'est du scénario sans réflexion. Ce n'est pas mentalisé réellement. Donc, ce n'est pas à ce moment-là, je ne comprends pas, tu jouis que là. C'est déjà le meilleur moyen pour qu'elle ne jouisse même plus dans cette position.
Et ça se trouve, elle simule. Lui, il croit qu'elle joue, mais ça se trouve, en fait, c'est
vous voyez, le mal partout, finalement.
Non, c'est pas ça, c'est que lui, il se croit super. Mais ça se trouve, c'est peut-être un minable, hein, comme beaucoup, hein, je ne dis pas.
Voilà, vous voyez ce que vous dites? Non, Jimmy, non, je me porte en faux.
Finalement, il est méchant. C'est bien ce que je me disais.
L'homme n'est pas minable.
Ça serait, oh, il y en a quelques-uns.
Non, mais elle peut aussi avoir le droit de ne pas vouloir jouir ou de ne pas y parvenir, bien qu'ayant un amant qui sait s'y prendre. Maintenant, il y en a qui sont évidemment complètement à côté de la plaque.
On va finir sur ça, Catherine.
Bon,
merci.
En tout cas, on ne parlait pas de Fabrice, on ne parlait pas de vous, ne vous inquiétez pas.
Voilà, très bien. Des garçons formidables. Merci beaucoup, Catherine. Merci à tous les garçons formidables. Merci pour vos conseils précieux. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour votre émission santé. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie.
Un petit tour en bateau, Stéphane.
Mais oui, on va retrouver des personnages de l'histoire qui nous mènent en bateau. Barbe Noire, le célèbre pirate des Caraïbes. Aristote Onassis, le richissime armateur grec. Et vous avez choisi qui, Mathieu ?
Un marin qui n'avait pas vraiment le pied marin. Je sais que c'est assez rare, mais il avait du mal avec les créneaux. Francesco Schettino, le capitaine du légendaire Costa Concordia.
Ça va mal finir cette histoire.
C'est probable.
Allez, on part en mer avec vous. Alors, cette fin d'après-midi, on sera bien sûr avec vous, avec Jimmy, et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.